Et maintenant, place à l'opéra dans le Regard Sûr.
Chers auditeurs, je vous propose aujourd'hui de découvrir un opéra plein de swing. Ceux qui pensent que l'histoire de l'opéra américain a débuté en 1935 avec la création à Boston de Parley & Bess, immortalisée par le grand succès populaire qu'a été Summertime. Pourtant, 27 ans avant l'œuvre de George Gershwin, et même 19 ans avant le musical Showboat de Jerome Kern, où la question raciale était déjà mise en avant, un Afro-Américain plus célèbre pour ses compositions de ragtime que ses opéras composa la première œuvre lyrique noire américaine de l'histoire. Trimonisha, tel est le nom de cet opéra rare et méconnu, composé en 1908, que je vous propose de découvrir aujourd'hui, et dont vous venez d'ailleurs d'entendre les premières notes de l'ouverture. Son très célèbre compositeur n'est autre que Scott Joplin. Si le nom ne vous dit rien dans le milieu lyrique, son ragtime The Entertainer, utilisé par George Roy Hill pour son film L'Arnaque, est lui universellement connu. Écoutez plutôt. L'histoire de la création de Trimonisha est à l'image de la vie de son compositeur, tortueuse et tragique. Né à Texarkana en 1866, Scott Joplin découvre le piano dans les maisons bourgeoises où sa mère fait le ménage. Un immigré allemand entend alors parler du jeune prodige et lui donne ses premiers cours de musique. Ne pouvant cependant pas envisager une carrière de soliste à cause de sa couleur de peau, Scott Joplin devient pianiste itinérant, louant ses services dans les saloons et bordels qui longent le Mississippi. Quand le triomphe du Maple Leaf Rag le propulse roi du ragtime, Scott Joplin se sédentarise enfin et songe à s'attaquer au genre blanc par excellence, celui de l'opéra, tentant de réaliser le grand écart musical séparant ces deux genres. Personne ne veut entendre parler de Trimonisha, et devant le dédain des producteurs new-yorkais, Joplin, ruiné, publie en 1911 la partition à compte d'auteur sans que personne ne s'y intéresse. En 1915, il décide d'en donner une représentation gratuite sans costume ni mise en scène, au Lincoln Theatre de New York, dans l'indifférence générale. Ne pouvant se payer un orchestre, il joue lui-même la musique au piano. C'est la dernière fois qu'il entend sa musique, puisqu'il meurt de la syphilis en 1917, au Manhattan State Hospital. Il faut attendre près de 60 ans pour qu'en 1972, à l'initiative du Morehouse College et de l'Atlanta Symphony Orchestra, soit enfin créé sur scène cet opéra dont les thèmes de la non-violence, de la lutte contre l'obscurantisme, des inégalités raciales et du féminisme, ainsi que la musique tissant bel canto, chœur verdien, folklore américain et négro-spiritual, apparaissait comme trop audacieux pour l'Amérique ségrégationniste du début du XXe siècle. La consécration vient en 1975 avec la production de l'opéra de Houston, présentée aussitôt après à Washington et Broadway. Trimonisha s'impose au public américain, au point de valoir à Joplin un prix Pulitzer à titre posthume. L'histoire de cet opéra en trois actes, relativement court puisqu'il ne dure effectivement qu'1h30 et dont le livret est signé de Scott Joplin lui-même, a pour cadre une plantation d'un village de l'Arkansas en 1884 et n'est pas sans évoquer la propre enfance du compositeur qui vécut précisément dans cet état. L'histoire de l'opéra commence véritablement pendant la guerre civile américaine, lorsque deux anciens esclaves, Ned et Monisha, découvrent un bébé abandonné au pied d'un arbre. Ces derniers décident de l'adopter et de lui offrir le plus beau cadeau qui soit, celui de l'éducation. L'héroïne de l'œuvre est donc Trimonisha, une jeune afro-américaine instruite, choisie par le destin pour affranchir les villageois de l'ignorance dans laquelle ils se trouvent, en refusant les superstitions qui les oppriment, superstitions ancestrales incarnées par le charlatan Zotzotric et le prédicateur Parson Holtolk. Frappant de constater la modernité de la pensée de Scott Joplin, qui, 60 ans avant le combat politique de Martin Luther King, donne une place primordiale à la femme pour réaliser l'égalité raciale par l'éducation. Scott Joplin nous livre donc ici sa bataille, mais une bataille artistique. Si le livret peut sembler un peu simple, candide voire naïf, il n'en demeure pas moins qu'une belle fable avant-gardiste, apologie sincère de la non-violence, de l'égalité raciale et de l'émancipation féminine. Œuvre avant-gardiste par ses thèmes, mais aussi par sa richesse musicale, puisque si Trimonisha est écrit selon les règles très strictes de l'opéra classique européen, il n'en repousse pas moins les frontières du répertoire en bousculant les habitudes. En effet, Scott Joplin intègre de la musique ragtime, mouvement précurseur du jazz, et de la musique de salon dans cette œuvre qui fait figure de communion classico-jazz. Se partage donc la partition avec une puissance musicale sur certains morceaux qui ne reviendra pas avant Stravinsky. Cet opéra, écrit par certains moments comme une comédie musicale, mais qui respecte pourtant tout le temps les canons du genre lyrique, est un défi pour les orchestres de formation classique qui doivent trouver le swing nécessaire à sa bonne réussite. Trimonisha, vous l'aurez compris, est un opéra de fougue, de fièvre, de générosité, de romantisme mêlé, mais également un véritable opéra de cœur, comme en témoigne la place primordiale occupée par ce dernier tout au long de l'œuvre. Ainsi s'achève cette présentation de Trimonisha de Scott Joplin, seul opéra du compositeur qui nous soit parvenu, puisque le premier, A Guest of Honor, composé en 1903, a été perdu. Les extraits que vous avez entendus sont tirés du seul enregistrement existant, enregistrement de la production de 1975 avec Gunther Schuller à la tête de l'orchestre. Vous pourrez retrouver l'intégralité des morceaux sur ce dernier CD. Et pour ma part, je vous laisse, chers auditeurs, sur un autre ragtime opératique endiablé, énergique à l'image de cette œuvre sans aucun équivalent, pleine de surprises musicales, et que je vous encourage vivement à découvrir si l'occasion vous en est donnée.
De ce transversa très masculin mais surtout très musical. Évidemment, remerciements à André Stocchetti, notre artiste de la première partie, mais aussi et surtout à Antoine Jaya et à Jocelyn Dutil pour leur rubrique particulièrement bien fournie. La semaine prochaine, vous retrouverez Célia et Nina pour une dernière émission qui promet pour finir cette saison. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur les ondes de Transistor.